Salut Sécure, épisode spécial, je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu?
Très bien, bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être présent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet moins technique qu'à l'habitude. Sur le grand vocable gestion des informations, mais on va aller plus précisément, du moins dans ce volet-ci, puisqu'on va séparer en deux volets, au niveau de comment l'information existe, puisqu'on vit dans un univers d'information, donc c'est essentiellement ce que sur quoi on s'appuie principalement. Puis là, on va aborder le volet peut-être plus citoyen et plus général, à laquelle on vit dans un bassin d'informations dans lequel celui-ci se pollue avec le temps, de façon volontaire et involontaire, tout dépendant de comment on l'observe. Ma perception, c'est que depuis le confinement, on a vécu une accélération des problèmes ou de la pollution de l'information. Donc, allons avec ça. Je laisse commencer avec ta partie d'introduction, puis on va débattre sur le sujet.
Ça marche. Merci beaucoup. Effectivement, oui. On va parler de données, d'informations, de ce qu'on en fait, de ce qui est crédible, du doute. Ça vient d'une remarque qu'on s'est posée tous les deux, puisqu'on se disait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des informations fiables. Et comme tu l'as très bien dit, contextuellement, ce n'est pas quelque chose de neuf. Hein. L'information, ça existe, c'est manipulé potentiellement par des pouvoirs qui ont un intérêt à ça. On va revenir là-dessus. Et effectivement, on a choisi de l'axe le plus générique pour commencer, c'est-à-dire celui le plus adapté à un discours qui parlera à toute personne, y compris les gens qui ne sont pas forcément comme nous dans l'informatique. Et puis effectivement, nous, on reviendra probablement un peu rapidement dans un deuxième module, dans une deuxième façon de faire sur les entreprises, l'information des entreprises, comment gérer ça, comment gérer la sécurité. On parlera aussi peut-être de choses aussi à ce moment-là. Mais effectivement, depuis le Covid, comme tu le disais très bien, il y a eu un emballement. Enfin, je dirais même qu'avant, ça a commencé avec l'effervescence des réseaux sociaux qui sont des sources d'informations aujourd'hui. Alors, ça paraît paradoxal parce que moi, je suis né dans les années 70 et dans les années 80 où j'ai grandi, ou 90, les sources d'information, ça s'appelle la télé, les journaux, la radio. C'est le métier de gens dont c'est la spécialité, des journalistes. Une profession qui a toujours le vent en poupe, hein, qui a toujours autant de succès, même si on voit des vocations qui se cassent vite. J'écoutais un document hier sur un responsable du secteur journalistique en France qui disait que c'est 40% des journalistes qui ont moins de 7 ans d'expérience quittent le métier avant ces 7 ans, arrêtent. Donc, on s'aperçoit qu'il y a il y a des vocations, mais il y a beaucoup de mal à rester dans ce métier-là. C'est qu'effectivement, il y a un métier beaucoup plus tendu. On est arrivé face à un foisonnement. Effectivement, je pense que l'effervescence des réseaux sociaux a amené un effet nouveau. C'est que, comme je disais, quand nous, on a grandi, les informations, c'était des canaux officiels, supposés vérifiés. Bien sûr qu'on pourrait très bien nous dire, mais non, mais même dans les années 80, on sautait déjà de notre gueule, il y avait des choses qui étaient manipulées. Je me souviens très bien en France du nuage de Tchernobyl qui aurait fait le tour de la France mais qui ne serait jamais passé sur notre territoire, sous couvert que les autorités en fait n'avaient pas envie de nous annoncer et de faire une panique dans le pays, alors qu'en fait on a été exposé à des radiations parce que l'usine de Tchernobyl, évidemment, enfin, la centrale a explosé et qu'on n'arrête pas un nuage nucléaire, hein, c'est tout. Ça s'appelle des retombées nucléaires, c'est des prix dans les vents et on a été exposé. Donc on voit bien que l'information, ça a toujours été là. Ça a toujours existé. C'est ce qui nous permet d'avoir un élément, un composant, un fait qui est raconté, qui nous permet, en tant que société, de se comprendre ou de vivre quelque chose de commun. Hein, si chaque être humain vivait chacun son truc dans son coin, ce serait chaotique. L'idée de l'information, c'est de partager un élément commun pour pouvoir construire justement une histoire commune, un point de vue. Oui, l'information peut être manipulée. Elle est issue d'ailleurs de données. Je ne sais pas si tout le monde connaît la définition. Hein. L'information, c'est l'intelligence et ou la valeur issue de la donnée. Donc, la donnée, ce sont soit des chiffres collectés, soit des faits racontés. Et ensuite, on en déduit quelque chose qui nous est raconté en détail, associé et qui peut donner du sens. Ce sens nous aidant à comprendre ce qui se passe là, ce que ça peut engendrer comme conséquence. D'où le journal. Quand on va voir un journal télévisé, c'est pour collecter les informations utiles du moment pour nous permettre de savoir ce qui se passe autour de nous et puis d'être capable ensuite d'en tirer des leçons potentiellement ou de préparer des choses. Le Covid arrive, il y a le merdier, il faut aller acheter du papier toilette, il faut acheter de la bouffe, il faut se préparer parce que ça risque d'avoir ses répercussions. On nous met des scientifiques devant les yeux qui nous disent oui, on pense qu'il va se passer ça parce que c'est ce qui se passe dans le... Hop. et dans ce cas-là, et on essaie de se projeter. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est face à une démultiplication des canaux d'information plus ou moins légitimes. L'effervescence et le succès de Facebook en premier, parce que c'est vraiment le premier pour ça, a rendu, c'est une espèce de concept un peu bizarre. Moi, Facebook, j'ai jamais eu de compte, perso. On est en 2024, j'en ai jamais eu. Et j'ai perdu des potes que je connaissais il y a quelques années parce qu'ils étaient tous sur Facebook et qu'il fallait être sur Facebook. Et ça m'insupportait, ce côté-là. Et je leur disais, mais vous n'êtes pas une news digne d'intérêt. Il n'y a pas de quoi faire une couverture de journal pour vous. Je suis désolé, je vous adore, hein, mais savoir ce que vous mangez tous les matins, je m'en fous, pour rester poli. Voilà, si tu veux m'en parler au téléphone, on en parle entre nous, mais le fait d'avoir un mur d'infos où je devrais consommer ça comme si ça me regardait directement, non. Quand une personne me parle, il y a un échange humain, il y a une communication, aller-retour, un échange, un lien. Quand quelqu'un met sur son mur Facebook des trucs, c'est comme si la personne disait « Regardez, je suis tellement important qu'il faut que tout le monde sache ce que je fais. Et si tu as raté un événement de ma vie, c'est de ta faute. » Je fais « Mais j'ai autre chose à foutre. J'ai 400 amis, je fais comment pour suivre tout le monde ?» Moi, au bout d'un moment, il y a 24 heures dans une journée, j'ai autre chose à faire de la journée. C'est à ça que servent les relations humaines. Donc, cette espèce de création, il y a plus de 20 ans, hein, quand on a réfléchi, de Facebook, nous a amené cette logique du, ce que j'appelle la culture du nombrilisme. Chaque personne, chaque citoyen pense que c'est ce qui lui arrive et ses points de vue sur un sujet sont des sujets dignes d'intérêt qui, par le temps, ont fini par être mis à égalité avec les canaux d'information officiels. Et donc, ça veut dire que quand Choupette, le petit chat, s'est tordu la cheville, ça devient aussi important que quand des missiles nucléaires sont tirés dans un pays pour menacer l'autre. Je dis pas...
Oui, ben c'est un énorme problème. C'est ça, c'est donner une tribune à des gens qui n'ont pas nécessairement la connaissance ou qui ne font pas les recherches comme il se devrait. Là, parce que là, le terme « j'ai fait mes recherches » a été surutilisé pendant notamment le confinement pour expliquer que les gens ont cherché sur trois sources Facebook pour réussir à justifier leur chose. Quand que du vrai journalisme, c'est des sources réelles, terrain, diversifiées, qui ont une rigueur qui est très différente des gens qui disent qu'ils font leurs recherches sur Facebook notamment. Et justement, c'est cette façon-là, comme tu l'expliques bien, d'arriver au fait que la nouvelle du chat qui s'est tordu la cheville devient aussi importante que la guerre en Ukraine, notamment, ou des recherches scientifiques dans lesquelles on vient décrédibiliser ou réduire la portée ou ça. Puis ensuite, il y a la distinction entre une nouvelle et une opinion aussi. C'est beaucoup perdu avec le temps. Quand maintenant, des opinions passent pour des faits, quand ça demeure qu'une opinion basée sur un certain nombre d'informations, souvent incomplète ou partielle.
Et c'est exactement ce qui se traduit là. Donc, on devient le centre d'intérêt de son propre monde. Je suis désolé, hein, tous les êtres humains sont un peu nombrilistes quelque part, voire parfois très nombrilistes. Donc, ça veut dire que y a des moments où, en fait, on ne réalise pas que ce qui est en train de nous arriver est important pour nous, mais pas pour le reste de la planète. Et comme je rappelle que les réseaux sociaux fonctionnent sur une espèce d'addiction, hein, où ça soigne certains mécanismes, faudrait qu'on revienne d'ailleurs un de ces quatre sur le sujet, sur l'addiction à la dopamine. Chaque fois qu'on dit qu'un truc et que c'est intéressant pour les autres, on a des likes, ça génère une situation de plaisir, et donc on a tendance comme ça à partager un certain nombre de choses. On réagit à ce qui nous arrive, tu as raison. Tout ce qui nous arrive autour de nous, à l'échelle internationale ou même très locale ou familiale, engendre des réactions chez nous, des émotions qu'on a des fois envie de partager parce que c'est facile humainement. Et quelqu'un qui me raconte un parcours personnel qui peut me sembler instructif, ça m'intéresse en soi. J'ai rien contre les réseaux sociaux en ça et ou l'histoire des gens. Mais il y a une graduation, et tu l'as très bien dit ici, on l'a vu pendant le Covid, entre le ressenti, l'opinion et l'interprétation qu'on peut faire de choses qui sont autour de nous avec le manque de connaissances qu'on a, puisque je rappelle que on ne sait qu'1% de ce qu'on sait réellement, hein, il y a 99% des choses qu'on ne sait pas. Et donc, on finit par avoir des opinions, c'est-à-dire qu'on entend un spécialiste nous parler d'un truc et on dit ce qu'on en comprend, sauf qu'on est nul. Il faut faire un peu preuve d'humilité. Et aujourd'hui, ce qui manque en 2024, je pense que c'est une humilité sur cette planète. C'est-à-dire, effectivement, on a été soigné, entraîné par les algorithmes et félicité pour ça, à dire « Mais moi, ce que je pense, c'est super important. » Et tu as raison, ça se voit. Alors, en France, on a actuellement une bonne nouvelle. Certains pourront dater comme ça à peu près la vidéo. Il y a une chaîne de télévision en France qui vient de se faire casser les pattes. qui vient de perdre ses ondes, qui s'appelle C8, qui était payé par un gros bourgeois français très très riche et très d'extrême droite, qui se payait un canal pour dire tout ce qu'il avait envie, et surtout n'importe quoi, au risque d'avoir des amendes carrément par les organismes de contrôle qui ont fini par lui enlever la chaîne, et qui dit « je ne comprends pas pourquoi m'enlever la chaîne ». Je dis « t'es pas censé avoir des amendes, tu comprends que t'es pas censé dire de la merde tous les jours, et payer des gens des millions pour dire de la merde tous les jours ». Pour humilier des gens, pour propager, pour diffamer littéralement, puisqu'on est sur de la diffamation. Donc la diffamation, c'est quand on dit quelque chose de faux, qui est avéré faux, qui est jugé par un tribunal comme étant faux et qui porte préjudice à d'autres personnes, à des partis politiques, à des individus, quels qu'ils soient. Donc là, on a aujourd'hui ces médias. Alors aux États-Unis, c'est des trucs comme... Alors je connais pas les chaînes, je vais pas dire de bêtises. On va dire qu'on s'est beaucoup influencé en France des États-Unis où on a des chaînes d'opinion, c'est-à-dire que les gens viennent dire ce qu'ils pensent et pas ce qui est. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a même ça à l'échelle politique, avec un certain Donald T, au sud du Canada, qui parle, et ses partisans, de réalité alternative. Alors, philosophiquement, ce terme est complètement con. Il n'y a pas de réalité alternative. Le ciel est bleu. C'est tout. C'est factuel, c'est contrôlé, c'est mesuré, il y a des longueurs d'onde, toute la planète le voit de la même couleur. Eux, ils sont capables de vous dire « non, c'est rouge ». C'est-à-dire que vous dites « oui, mais... » Et de le répéter. Par contre, ils ont des chaînes de télé et des gens qui propagent ça sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça met le doute. Ça commence à propager une idée qui est totalement fausse, au risque de cacher derrière une volonté d'avoir un discours. Si c'est rouge, c'est parce que c'est la faute des méchants qui sont face de nous, qu'on n'aime pas, et c'est leur faute, c'est sûr. Je ne vais pas leur inventer des excuses, etc., parce qu'ils en trouvent toujours plein. Mais ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que finalement, l'information qui m'est donnée est fausse. Elle est faite pour nuire. Elle ne me concerne pas directement. Là, je suis en train de faire... je me plante toujours entre Platon et Socrate, mais je crois que c'est le mécanisme platonien qui dit « Si ça ne te concerne pas directement, si c'est malveillant et si tu ne peux pas en vérifier la source, alors ne tiens pas compte de cette information. » Le problème est qu'aujourd'hui, même les canaux officiels commencent à nous arroser d'informations de ce type-là, dont on ne connaît pas forcément la source, qu'on a beaucoup de mal à définir, qui sont des informations malveillantes, c'est-à-dire qui sont vouées à nuire à un pays, un pouvoir, une population, un groupe humain défini, pour le bénéfice d'un autre groupe humain défini, puisqu'en fait, c'est ça le pouvoir, hein, c'est des enjeux de pouvoir. Moi, j'aime pas ce que tu dis, j'aime pas ce que tu penses, donc je vais m'opposer à toi, peu importe qui je suis, peu importe qui vous êtes. Mais c'est ça l'histoire qui est derrière. Il n'y a pas d'information neutre. Une information neutre, ça n'existe pas. Les faits peuvent être neutres. On mesure la température qui fait aujourd'hui, c'est une mesure, il y a le mercure qui monte et on sait, en degrés Celsius ou Fahrenheit, peu importe d'où vous venez. D'accord ? Ça, c'est factuel. Aujourd'hui, moi, j'ai trop chaud. Ma femme vous dirait qu'il fait bon. C'est une question de ressenti. Est-ce que c'est une information ? Non. Le fait qu'il fasse 30 degrés, c'est une information. C'est un fait. Le fait que David dise qu'il fasse chaud, c'est pas un fait. Par contre, si j'avais les pouvoirs de vous marteler pendant des jours et des jours que c'est un fait important, je le dirais, il fait trop chaud, c'est nul, il faut faire ça, il faut changer, c'est la faute de mes ennemis, etc.
Ouais, ça devient, c'est ça, une opinion que tu exprimes. Puis pour la chaîne de télévision que tu mentionnes, c'est Fox News aux États-Unis, notamment, il y en a d'autres aussi,
oui,
mais c'est qui est les plus connus. Et un des problèmes, puis qui a été largement décrit, je ne sais pas à quel point c'est réglé, je sais qu'avec les procès qui ont suivi les élections, et donc Fox News a eu des amendes assez salées d'ailleurs pour avoir propagé de fausses nouvelles notamment. Une des choses qui était manquant, c'est qu'ils ne disent pas quand c'est de l'opinion, ils ne disent pas quand c'est de la nouvelle. Donc, ils cachent sous de la nouvelle de l'opinion, et là, ça devient beaucoup plus traître ou pervers comme approche, parce que là, on a l'impression, en certains égards, que c'est de la nouvelle. Donc, il y a des faits avec un peu d'opinion, quand dans les faits, c'est juste de l'opinion qui se fait passer pour de la nouvelle. Donc, ça devient énormément problématique. D'ailleurs, ils se sont fait reconnaître coupables dans le cas des machines à voter, notamment aux États-Unis, pour diffamation, justement sur cette base-là. Et là, un de leurs animateurs vedettes a perdu son poste conséquemment à cette chose-là. Fait que, heureusement, les systèmes de justice peuvent, à certains égards, corriger. Malheureusement, un peu tard, puis c'est comme tu le mentionnais en France aussi, probablement un peu trop tard. La pile des amendes fait que les dommages chez la perception des gens est quand même faite, parce que ça a des effets sur les gens. Ça a des effets sur les gens qui subissent ce genre de choses-là ou ceux qui se font remplir la tête de ces informations-là qui sont fausses finalement.
Ça crée le doute. Ça crée le doute parce qu'à un moment donné, ce que tu as entendu, même si on te l'a corrigé après... En fait, c'est pour ça que ces médias-là ou ces gens riches payent des gens pour dire n'importe quoi. Ils savent que même en payant l'amende, en ayant une diffamation et en rectifiant après, il est trop tard. L'effet négatif est plus intéressant pour eux. Ils préfèrent que ça se passe mal, payer, parce que finalement, bah d'abord, on est sur des gens qui sont milliardaires, donc vu le niveau des amendes, c'est comme s'ils se torchaient les fesses avec des billets de $500. Ils s'en foutent totalement. Ça n'a pas d'impact pour eux. Et ça leur permet d'alimenter une idéologie et de répéter des choses. Bien sûr qu'on va me dire, oui, mais moi, attends, j'ai des convictions politiques, c'est pas eux qui vont me faire changer d'avis. Moi aussi. Et même dans mes convictions politiques, il m'arrive de réfléchir, de remettre en cause des choses. Mais c'est pas la majeure partie des citoyens dans les pays où nous sommes. Il y a plein d'élections, on vous le dit, dans les statistiques, il y a plein d'élections qui sont gagnées parce qu'il y a un bon tiers de la population qui, la veille de l'élection, sait toujours pas ce qu'elle va voter. Alors, je ne sais pas comment ils font, personnellement. J'arrive pas à comprendre. Personnellement, j'ai des convictions et je sais pour qui je vote. Mais en arriver là et se voter pour un extrême ou l'autre, carrément avec l'idée, pas d'être obligé, mais de faire le choix, il y a quand même des trucs assez, assez bizarres. Donc oui, comme tu dis, ça restera, en fait. Et l'effet, il est là. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui se passe. Après, il y a l'effet rhétorique. J'ai écouté une journaliste maintenant qui donnait cet exemple-là, qui disait dans un média français, il n'y a pas longtemps, il y a encore une énième réforme de l'assurance chômage en France, alors qu'on n'en a plus du tout besoin, mais on veut stigmatiser. Et le journaliste dit 30% des Français sont pour. Ouais, ce qui sous-entend que 60% sont contre, en fait, du coup. Donc quand tu dis 30% sont pour, c'est pour alimenter l'idée qu'il y a des gens qui sont pour. Regardez, c'est important, il y en a 30%. Non, mais c'est comme la vote d'extrême droite en France. Il y a 30% des gens. Non, mais il y en a quand même 60-70% qui n'ont juste pas envie de voir leur gueule au gouvernement. Je ne cherche pas. Hein. Ils sont détestés par l'ensemble. Et c'est ce que vous êtes pris dans les dents. La réalité, des fois, a le temps de revenir, heureusement. Mais on voit d'année en année, de plus en plus, c'est de plus en plus difficile de trouver la bonne information, de savoir si elle est juste, même dans les canaux qui nous sont habituels. Et on a à côté de ça, alors on l'a vu en France, nous, on a eu des cas où l'AFP, donc l'Agence française de presse, donc le canal officiel de toutes les infos vérifiées, s'est fait pourrir elle-même. Donc quand le canal principal qui sert d'intégrité aux autres est pourri, ou a des biais, des partis pris, on s'aperçoit que finalement, ces autorités ne sont pas si infaillibles. Pour ceux qui regardent Star Wars, The Acolyte, ou qui ont regardé Watchmen, ou Watch the Watchmen, quoi, qui s'occupent de contrôler les systèmes de contrôle eux-mêmes. En France, on a eu le cas avec l'ARCOM récemment, là, donc à enlever le canal de C8, heureusement, parce qu'on commence à avoir des doutes sur leur capacité à être capable d'appliquer une loi. Ils sont censés être une autorité de référence avec une forme d'autonomie ou d'indépendance qui aujourd'hui est très remis en cause. Et on voit aussi dans les démocraties, parce qu'on a la chance d'être au Canada, en France, dans des démocraties, ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus, on voit que certains contre-pouvoirs, puisque les journalistes étaient censés être des contre-pouvoirs, sont de plus en plus discutés dans ce sens-là. Quand on est propriété d'un gros groupe de presse, propriété elle-même d'une entreprise ou d'un patron très riche qui a des idées et qui les impose, elle est où la liberté, il est où le contre-pouvoir à cet endroit-là? À quel moment on s'oppose, à quel moment on donne de l'information? Donc on a un foisonnement d'informations, un foisonnement des canaux d'information. On sait qu'une information négative se propage 4 ou 5 fois plus vite qu'une information positive ou que la vraie information. Donc en plus, la merde va plus vite à circuler. Et c'est beaucoup plus dur après d'aller la démonter parce que ça a mis des doutes qui sont alimentés ensuite par pas mal de choses. On voit aussi qu'on a des informations aujourd'hui qui circulent qui, au premier coup d'œil, quand on a 4 neurones branchés, nous paraissent complètement aberrantes, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui leur donnent de la véracité quand même, qui apportent du crédit à ça. On voit l'effet de complotisme qui est apparu. Alors, je dis toujours, entre quelqu'un de lucide et un complotiste, la seule différence, c'est que les deux se posent les bonnes questions, il y en a un des deux qui ne supporte pas l'idée de ne pas avoir de réponse. Donc, un complotiste va trouver une réponse, même si pour vous qui ne vous considérez pas comme complotiste, comme quelqu'un de raisonnable, ça vous semble aberrant. Ben, la personne, pour elle, ce n'est pas aberrant, c'est juste que c'est insupportable de ne pas savoir. C'est même douloureux, c'est même dangereux pour son équilibre émotionnel. Donc les complotistes ont besoin de trouver un truc qui les rassure au-delà du fait, bon, il y a le côté narcissique de moi, je sais un truc que les autres ne savent pas, etc. Mais souvent dans le complotisme, il y a d'abord une peur, en fait, très très importante, et le monde dans lequel on est très anxiogène, on l'a vu, les canaux qu'on vient de dire sont de plus en plus anxiogènes, ils sont dénoncés hein, publiquement, on n'est pas les seuls à parler de ce sujet-là, c'est dit quand même. Donc ça veut dire que je pense que les citoyens de cette planète, en partie, sont conscients qu'il y a des soucis d'information dans ce monde. On voit des mécanismes se répéter. On voit, par exemple, nos amis russes qui attaquent les Ukrainiens sous prétexte que c'est des néo-nazis, ils inventent complètement, sauf que vous allez en Russie, les canaux disent non, non, c'est tout à fait ça. C'est la même chose que disaient les Allemands en 1938-39, quand ils envahissent la Pologne, en disant mais c'est la Pologne qui nous a attaqués, nous on fait que répondre. Tous les journaux du pays disent c'est une attaque polonaise, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, on le sait, mais dans les pays où ils étaient, ben non, on s'est fait attaquer, on répond, c'est normal. Les jeunes allemands s'engagent dans l'armée allemande pour aller taper sur les Polonais parce qu'ils leur ont fait du mal. Donc, c'est toujours une question de point de vue. C'est facile, nous, de regarder de l'extérieur. On dit, on récupère des infos à droite à gauche, entre l'Ukraine, la Russie, voilà ce qui se passe. Donc, on arrive à peu près à se positionner. Il n'est pas interdit de se positionner, de se poser la question. Peut-être qu'on s'est fait leurrer aussi, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai à peu près plus d'informations qui vont dans un sens que dans l'autre, c'est vrai. Donc, ça a l'air d'aller, mais on pourrait très bien mettre en doute. Et moi, j'accueille toujours le doute. Si quelqu'un a un doute sur un sujet, il faut aller chercher les infos. Par contre, ça veut dire qu'il faut aller multiplier les canaux d'information. Et c'est là où ça devient difficile, parce que des canaux d'information multiples, il y en a, mais souvent, ils sont abreuvés par les mêmes fonds de canaux, en fait, qui sont communs, qui sont eux-mêmes alimentés potentiellement par des pouvoirs politiques ou par des organismes qui ne sont pas si neutres que ça. Donc, c'est pas du tout évident, et c'est un des constats qu'on faisait avant de commencer. C'est la difficulté de trouver des canaux fiables et d'aller recouper l'information. Ce qui d'abord veut dire avoir ces canaux, donc les connaître, et ensuite avoir une bonne méthode pour les récupérer, recouper l'information et avoir le courage d'y aller, avoir à le faire.
Tout à fait. Puis c'est une de mes plus grandes plaintes. C'est avec la guerre en Ukraine principalement que ça l'a explosé. Ce n'était plus possible de tirer les informations d'un seul canal, même si celui-ci, a priori, nous apparaît fiable, notamment comme les sources journalistiques, par exemple. Ça devient un travail très, très lourd, personnellement, de devoir faire ce genre de choses-là. Moi, je le fais parce que j'ai cette curiosité-là et cette volonté-là. Mais je pense pas que ça l'habite tant de gens que ça, ce degré de curiosité-là ou de volonté d'aller au fond des choses jusque, justement, d'avoir cette forme de, comme tu mentionnes, une certitude, mais c'est mon chemin vers la certitude qui me mène vers ça. Donc, de cette quête-là. Donc, c'est deux, des fois trois sources qui sont basées pas réellement sur la même source, mais trois sources distinctes qui ont vérifié vraiment à l'origine des choses. En contrepartie, puis ce qui est un peu heureux qu'on a vu avec la guerre en Ukraine, c'est que les journaux, les grands journaux ont commencé à spécifier s'ils avaient pu vérifier eux-mêmes l'information qu'ils avaient, qui ne faisaient que relayer l'information qui était fournie sans contre-vérification. Donc, on est au moins dans un moment où ces médias-là commencent à nous dire, OK, nous, on n'a pas fait notre vérification, donc on ne peut pas qualifier si cette information-là, elle est réel, c'est un fait, ou ce n'est qu'une opinion ou de la propagande qui a été faite dans ce cas-ci, c'est l'État russe et l'État ukrainien aussi fait de la propagande. Donc, on est dans les deux côtés. Donc, c'est un problème en soi d'avoir de la bonne information, savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et tu faisais référence à l'Allemagne de la Deuxième Guerre qui ont raffiné énormément la propagande, puis ont mis beaucoup de recherches dans ça. Fait que tout ce qu'on connaît de propagande moderne émane des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale qui ont énormément raffiné ces genres de choses-là. Donc, on est dans un contexte qui, on ose espérer que les grands journaux soient le plus imperméable possible, mais encore là, comme tu le mentionnes, c'est des humains, on est tous un peu faillibles. On se laisse emporter, même les grandes institutions sont biaisées d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est de savoir peut-être où les gens se situent et d'avoir une boussole dans cet environnement-là.
La propagande telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née dans les années 20-30 avec l'ouvrage « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie » de Edouard Bernays, qui a littéralement été lu et repompé par les dirigeants de l'Allemagne sous Hitler. Goebbels, qui est le chef de la propagande à l'époque, qui a créé le marketing moderne. pour l'anecdote. Voilà, et c'est tout le marketing moderne est appuyé là-dessus, sur comment justement manipuler les foules, comment manipuler les opinions, comment raconter une histoire, comment se servir de ça. C'est une science, littéralement, c'est étudié. Et effectivement, tu l'as très bien dit, aujourd'hui, quand deux partis s'opposent, que ce soit des partis politiques, des pays ou autres, deux belligérants vont utiliser la même méthodologie aussi pour essayer de, au-delà de dire ben, « il y a une réalité, il s'est passé ça », c'est aussi d'essayer d'avoir une guerre d'influence et d'amener des choses. Comment dire, les images sont très importantes. On l'a vu avec ce qui s'est passé le 7 octobre avec les attentats, le massacre du Hamas en Israël qui est venu s'attaquer à des civils de façon tout à fait monstrueuse. Et le fait que les images ont beaucoup circulé après, ça ne veut pas dire qu'on veut juste nous informer, ça veut dire aussi qu'il y a un point de vue de l'autre côté, parce que je rappelle que la Palestine et l'Israël, ce n'est pas une colonie de vacances où tout allait bien avant. C'est juste une zone de guerre, de deux populations qui sont en friction et en conflit depuis maintenant, ça va faire 80 ans. Donc effectivement, ça ne date pas d'hier. Et donc on a toute une... autour d'un événement, puisqu'il y a réellement des êtres humains qui arrivent armés pour attaquer des civils, pour leur faire du mal, c'est factuel. On a des raisons à cette situation qui découlent sur d'autres effets. Les effets d'après découlent eux-mêmes de raisons d'idéologie et on a toute une guerre d'images. D'ailleurs, les services de communication israéliens ne se sont pas manqués dans les heures qu'on suivit de faire montrer des images terribles de la réalité de l'acte à des journalistes pour amener chercher l'émotion, pour avoir un biais et les pousser à avoir un angle de vue particulier. Quand on voit une situation comme ça, moi c'est le premier conseil que je vais laisser à ceux qui nous écoutent, quand on a une situation comme ça qui génère de l'émotion, premier réflexe c'est de ne surtout pas réagir. Quand on est sur un réseau social et qu'on voit que quelqu'un met un truc qui nous écœure, nous émeut ou nous agresse, le premier réflexe c'est de surtout pas réagir parce que vous ne réfléchissez pas avec votre cerveau, vous réagissez avec votre émotion. L'émotion, j'ai rien contre, hein. Moi j'en ai plein et je peux vous assurer que sur les réseaux sociaux, des fois ça m'agace. Mais je me suis fait une règle d'or, c'est qu'aujourd'hui, je ne réagis mais jamais à l'émotion. Quand il y a un truc, quand il y a quelqu'un qui m'emmerde, qui dit un truc complètement con, aujourd'hui, je dis hop, je ne commande pas, je laisse couler, je laisse passer. Et en général, au bout de quelques minutes, je dis, tu sais quoi, je vais arrêter de voir tes notifications. C'est pas grave, on est 8 milliards sur Terre, il y a de la place, on n'est pas obligé de se côtoyer, c'est pas très grave. Et je veux plus voir ce que tu dis parce que bon, écoute, visiblement, on n'a pas du tout le même ressenti du monde. Et c'est pas grave en soi. Il y a un philosophe français pas très connu qui disait en fait, c'est un mythe de devoir communiquer avec tout le monde et de devoir s'entendre avec tout le monde. Non. On peut tout à fait penser, avoir un modèle de pensée qui n'a rien à voir avec un autre être humain et fait qu'idéalement, il vaudrait mieux qu'on n'échange jamais quoi que ce soit parce qu'en fait, on n'est pas du tout compatible. Ça arrive, c'est pas grave. On n'est pas des bisounours, on n'est pas des licornes. On n'est pas obligé de s'entendre. On est 8 milliards sur Terre. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes opinions. Donc, quand vous voyez des images de ce type-là, et les réseaux sociaux vont à l'inverse, vont tendance à vous récompenser quand vous réagissez vite et que ça fait réagir les autres. Donc c'est l'alimentation, là encore, le tunnel de dopamine qui en met un coup. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous likez ou vous réagissez à un truc comme ça violent, c'est pour ça que les gens vont vers le clash. C'est aussi une tendance des réseaux sociaux, c'est que si vous dites un truc dégueulasse, ça va faire réagir les gens. Et une mauvaise publicité, c'est mieux que de pas publicité du tout, on dit. Donc des fois, c'est ça aussi, hein, ce qu'on voyait quand on disait tout à l'heure, les entreprises qui achètent des médias pour dire n'importe quoi, c'est souvent aussi pour faire du buzz, faire du bruit autour, faire du clash, parce que ça attire vers eux, ça attire des gens qui vont venir voir, et donc s'ils viennent les voir, c'est une forme de visibilité de leur idéologie, de leur pensée. Je peux vous dire des trucs odieux sur des gens dans le monde. Et plus je vais le répéter, plus au bout d'un moment, il y a des gens qui vont me dire ça donne à réfléchir, ça devient un sujet. C'est comme ça qu'en France est arrivé, par exemple, que des théories d'extrême droite qui, il y a 20 ans, étaient intolérables, deviennent des sujets courants de discussion aujourd'hui. C'est-à-dire que ces médias-là imposent une idéologie par la répétition de trucs immondes et faux. Mais au bout d'un moment, c'est tellement répété qu'on finit par remettre en cause même l'idée que ce soit faux ou que ce soit immonde. C'est... j'oublie à chaque fois. C'est pas le rasoir d'Akam, c'est l'autre, c'est la zone d'Overton. C'est-à-dire que vous vous dites un truc dégueulasse plein de fois, ce qui ça amène le sujet, ce qui fait qu'on peut discuter de la version un petit peu en dessous et que ça devient acceptable de discuter d'un sujet. Si je vous dis, tiens, demain, en fait, il y a trop de chômeurs en France, il vaudrait mieux les tuer pour en faire des hamburgers, vous allez me dire, t'es un salaud, t'es un malade. Si je vous le répète pendant un an d'affilée sur une chaîne YouTube et j'ai de plus en plus de gens qui me suivent, vous allez voir que d'ici un an, on discutera de ça comme un phénomène de société, le nouvel entrepreneur qui réduit le chômage en France et qui crée de la viande. Ouais, ouais. Et c'est du libéralisme. Je crée des emplois, vous n'allez pas m'en vouloir quand même. Il paraît que c'est.
Tu favorises les, les capitalistes. tu réinjectes des travailleurs dans le système.
Au sens physique du terme, je les injecte. Et en plus, je suis pour tu vois, je suis contre la souffrance animale, donc ça évite de tuer les animaux. Voilà. Franchement, moi, je trouve des solutions. Hein. Voilà. Si je vous dis ça, effectivement, ça va vous paraître aberrant, mais le fait de le répéter, là aussi, et les réseaux sociaux ne sont que les amplifications de multiples répétitions de répétitions des mêmes choses, au point ça en devient du matraquage. Dans nos bulles de réseaux sociaux fermés, puisque je rappelle que les réseaux sociaux sont faits sur des algorithmes qui analysent notre comportement et nos addictions personnelles, donc on a dans nos canaux de réseaux sociaux aussi que les informations que l'on trouve intéressantes. Alors, ça c'est le deuxième biais. Je me suis forcé avec le temps à lire des journaux d'opinions différentes de la mienne. Parce que lire que les magazines ou les articles de presse des journaux que j'aime bien, qui pensent comme moi, ben ça favorise mon idée que j'ai raison d'avoir raison. Et ça, c'est super important. Alors, ontologiquement, personnellement, c'est vrai que c'est très, très, très intéressant de te dire j'ai raison, j'ai forcément raison. Mais on a ce biais de validation. Si vous ne côtoyez que des gens qui posent la même chose que vous, au bout d'un moment, en fait, on se conforte dans l'idée qu'on a raison, au point où on remet même plus en cause les raisons pour lesquelles on est en train de penser ça, et peut-être que ce qu'on avait raison de penser il y a 10 ans n'est plus du tout valable aujourd'hui et doit progresser. Donc moi, c'est une deuxième chose, j'invite les gens à aller voir des médias divers et variés, sur divers supports et de diverses orientations idéologiques et politiques, quitte à lire des trucs qui sont très opposés à ce que vous pensez. Alors, parfois, ça vous permettra de dire, bah, effectivement, oui, là, moi, leur structure logique, je la comprends pas du tout, et de pouvoir alimenter une réflexion. Puis parfois, ça vous permettra d'avoir des points de vue, c'est-à-dire, mince, effectivement, peut-être que ceux que j'aime bien en politique, ils sont pas tout noirs ou tout blancs, c'est peut-être pas tous très gentils, peut-être qu'ils font des conneries aussi, peut-être qu'ils font des trucs. Comme disait un Canadien connu qui fait le pirate, toujours se poser la question de d'où vient l'information, qui me parle. Quel est l'intérêt de la personne de me transmettre cette information? Parce qu'en fait, quand on vous dit quelque chose, nous, notre intérêt, c'est de faire résonner notre valeur d'humanisme et de dire, bah, nous, on aime bien éclairer les êtres humains qui sont autour de nous et les inviter à se sensibiliser. C'est ça. On fait ça parce que ça fait partie de notre ADN. On fait ça. On le fait gratuitement. C'est la preuve qu'on n'a rien à y gagner d'autre. C'est pas ce qui va nous faire gagner du business. On peut même se fâcher avec des gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Donc, vous voyez, nous, on en est là. Peut-être qu'on peut venir nous interroger sur la démarche, peut-être qu'on n'est pas conscient de biais dans notre démarche, c'est possible. Mais on est prêt à en discuter.
Oui, tout à fait, puis j'aime bien ça. Puis ça, ça fait longtemps que, un, je le fais, que personnellement, je me soumets à des informations ou à des sources d'informations lesquelles ne sont pas alignées avec mes valeurs, alignées avec mes choses, justement, pour être capable d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Sur la base que, puis je les répétais souvent quand j'étais même plus jeune, étonnamment, j'avais cette conscience-là, même plus jeune, où des gens disaient, oui, pourquoi on pense tout pareil, pourquoi les choses changent pas? Ben, la réalité, c'est parce que les gens qui nous entourent, c'est des gens comme nous, fait qu'ils sont comme dans la même bulle que nous, fait qu'incidemment, on ne tient pas ou rarement des gens qui sont contrariants ou vexants dans notre entourage, parce qu'avec le temps, on a tendance à juste s'agglutiner avec des gens comme nous, donc avec les mêmes valeurs, les mêmes discours, les mêmes choses comme ça, ce qui nous rend imperméables aussi socialement à voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans d'autres classes sociales, ce qui se passe dans d'autres milieux de travail, ce qui se passe dans d'autres éléments. Fait que, parce que moi, ma perception du milieu du travail, elle est nécessairement biaisée par mes expériences et nécessairement biaisée par où je travaille présentement. Donc, ça va influencer énormément. Et d'admettre ça, c'est déjà un énorme pas en avant de dire, OK, ben je sais que je suis biaisé, je sais que je suis limité, je suis un humain avec certaines limites et j'accepte ces limites-là. J'accepte qu'on me remette en cause d'ailleurs aussi, justement, que je puisse avoir tort. Et à la limite, je dis pas que j'aime ça avoir tort, mais quand j'ai tort, qu'on me le dise et qu'on me donne des faits et des éléments qui me permettent de me réactualiser, de revoir où je suis, où je me situe et comment c'est fait, et justement d'aller vers quelque chose et dans un contexte libre et non agressif, là, si possible, parce que quand on aborde l'agression et l'émotion dans cette genre de conversation-là, on va nulle part puis on n'avance pas. Même si on ne partage pas nécessairement les mêmes choses, on peut vivre sans s'agresser ou sans se vouloir marteler sur l'autre le fait que j'ai raison. Parce que j'ai pas raison, j'ai juste mon univers à moi dans lequel je vis, qui est alimenté par mes expériences et dans lequel, en tout cas, dans mon cas, j'essaie de faire cheminer. Et ça prend, ça, tu l'as mentionné une fois, ça prend de l'humilité d'aller dans ces éléments-là. Sans humilité, on n'a pas l'ouverture suffisante pour accepter qu'on puisse avoir tort. Et ça fait mal d'avoir tort, là. C'est-à-dire, ça gratouille mon intérieur quand que j'ai tort, mais maintenant, il faut admettre aussi.
Je ne sais pas si c'est une question d'avoir tort ou raison, parce que ça, c'est une histoire de pouvoir, en fait. C'est de savoir reconnaître qu'on ne sait pas. Ce qui est très, très, très difficile pour beaucoup d'êtres humains. On en a déjà parlé, moi j'en parle souvent en formation. La phrase la plus intelligente qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est « je ne sais pas ». Et tu donnais l'exemple du Covid, et je reviens dessus, parce que là, c'est typiquement ce qui s'est passé. On a une maladie, on a des épidémiologistes, qui sont face à une maladie qui est en train d'arriver, mais on ne sait pas comment elle va se passer. Et les journalistes et les médias qui passent leur temps à leur demander qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Et cette affirmation, elle a été inaudible depuis le départ. Et donc, on a les politiques qui se veulent pour être rassurants et qui disent n'importe quoi. En France, ça a été une catastrophe. Entre allez-y, sortez, prenez pas de masque, il n'y a pas besoin, et puis trois semaines après, on bloque tout. Et alors qu'on savait déjà, en fait, si on était juste rationnel, si on regardait les faits, les scientifiques, les épidémiologistes disaient déjà, ben non, il faudrait bloquer là par précaution pour effets limités si on regarde. Et on a en fait le scientifique qui va regarder des faits, même si le scientifique peut ne pas être neutre et être biaisé aussi, bien sûr, hein, mais l'approche scientifique, c'est on sait quel type de maladie c'est, ça rentre dans telle catégorie, voilà les symptômes, voilà comment ça se propage. Donc, bah, techniquement, pour toutes celles qu'on a vues avant, voilà ce qu'il faut faire pour essayer de limiter l'effet négatif. Et les personnes qui sont en face, qui doivent prendre des décisions, elles sont pas sur ce sujet-là. Elles sont pas sur les faits, elles sont sur l'opinion. À partir du moment où on est sur l'opinion, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on réalise qu'on se trompe ou que son opinion, finalement, elle n'est pas si stable, si solide que ça, on peut accepter d'aller chercher, d'entendre autre chose, se dire, bah tiens, dis-moi alors, tiens, c'est intéressant ce sujet-là, je ne l'avais pas vu sur cet angle-là, et d'accepter cette écoute. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, on finit par se chicaner, se rentrer dedans, parce qu'aujourd'hui, on est face à des opinions. C'est-à-dire qu'on confronte des opinions. Et avoir tort ou raison, c'est ça. Ça veut dire j'ai la bonne opinion, t'as pas la bonne. Et le problème, c'est qu'ensuite, on baigne dans une époque où, sur les médias, moi je joue en France, on discute plus du fait, on discute de l'opinion, et c'est celui qui sera le plus insultant, le plus violent, le plus agressif. La chaîne de télé qui disparaît en France là, avec le fameux présentateur catastrophique qui est Cyril Hanouna, c'est du bullying, tu sais. Des enfants qui se réunissent autour du table pour mettre à mal un autre. Et ça fait des années que le mec, il se paye une audience avec ça. Et on dit « c'est génial ». Non, c'est horrible. C'est psychologiquement très dérangeant. Les gens qui sont dans cette émission sont très, très malsains. On a toute une mise en scène volontaire qui a été dénoncée depuis. On voit que c'est orchestré. Et on a cette façon de dire « moi, ce que je pense, c'est mieux, toi, c'est de la merde ». Et ça se voit dans la rhétorique, hein, si vous lisez Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, voilà, littéralement, si vous voulez faire un truc cet été, lisez ce bouquin, il est génial. Ben, en rhétorique, quand on n'a pas d'argument factuel pour défendre une opinion, on démonte l'interlocuteur lui-même, on l'attaque, c'est une attaque qu'on dit ad nominem, on attaque la personne, on le diffame, on l'humilie, on lui rentre dedans, on le déstabilise émotionnellement, pour pouvoir dire, regarde, il est nul, en fait, alors qu'on n'a jamais parlé du fond de l'histoire, on ne parle pas des faits, qu'on détourne aussi pour en faire ce qu'on veut, et où on les sort de leur contexte, on les manipule pour aller dans un sens. Donc, avoir une démarche scientifique sur les faits, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi de ce côté-là. On n'a pas, à l'école, même si on est censé avoir vu ce genre de choses, finalement, on a très peu de choses qui nous permettent de faire ça. Il y a très peu d'élèves qui ont fait des études de lettres, par exemple, dans leurs études, et qui sont capables de l'utiliser dans leur analyse de tous les jours, des faits qui leur sont donnés. parce qu'on réagit d'avant tout à une émotion, on réagit vite et on ne se pose pas la question. Et comme tu dis, on le rappelait, bah le point de départ, c'est d'être humble, de se dire « je ne sais pas ». Et bien sûr que ce qui s'est passé avec le Covid est terrible. Bien sûr que c'est terrifiant d'avoir une telle déstabilisation de nos sociétés qui ont des assurances, des allures de paix, de continuité, tout va bien. Donc dès qu'on met un petit coup dans l'engrenage, on commence à paniquer, on s'aperçoit que l'engrenage, il est très fragile. Et ça peut avoir, on peut très vite avoir une grosse influence sur les opinions et mettre en mouvement des forces qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a un certain président américain qui l'a fait, hein, en prétendant qu'il avait gagné l'élection alors qu'il l'a perdue, qu'il n'en a jamais après apporté la preuve, hein, parce qu'après tout, si tu as perdu une élection pour en apporter la preuve, hein, et qui a mis en mouvement c'est des citoyens américains qui l'ont suivi sur impulsion de ses déclarations, puisqu'il est jugé pour ça, et qu'il a été reconnu coupable, et qu'ils ont été commettre un délit, et certains sont en prison à cause de ce point de départ. Donc on voit bien que la réaction, c'est un événement, une émotion, on défait les contours, on attaque et on diffame les autres en disant n'importe quoi, et on met en mouvement une population. Je rappelle que ce président américain a été élu sur une manipulation de masse qui a été prouvée et jugée. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un truc que je vous invente. Ça s'appelle Cambridge Analytica. C'est-à-dire qu'au moment de l'élection américaine, Trump a payé une société étrangère pour aller faire de l'influence sur les populations dites incertaines, donc les gens qui ne savent pas vers qui ils vont voter, ce qui a suffi à avoir une influence sur le résultat de l'élection. Moi, je t'avoue, le truc qui me fait mal au crâne depuis que c'est arrivé, depuis qu'il y a eu le cas et que ça a été jugé, je me dis, à quel moment le gouvernement américain ne dit pas « bon, on annule l'élection et on recommence tout, parce que là, il y a un problème ». Le Brexit, dans la même période, a eu le même effet. C'est-à-dire que le Brexit, les partisans du Brexit ont payé la même société pour aller faire du lobbying caché, dissimulé, dans les pages web avec des fausses news pour influencer sur l'état d'esprit des votants qui étaient sensibles à peut-être switcher leur vote contre à un vote pour, par exemple, le Brexit. Et donc, quand on voit que ces votes ont été gagnés à très peu de voix près, ces élections souvent, finalement, sont... C'est rare une élection qui est gagnée avec un score monstrueux. Soit c'est parce qu'on est dans une dictature et qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le fait qu'il y a zéro démocratie, que c'est un faux vote. Mais la société, elle est plutôt... si on fait la moyenne des opinions d'une société, c'est très moyen, justement. C'est très lissé parce qu'il y a des opinions très extrêmes et on est très nombreux. Donc, c'est très difficile d'avoir une opinion qui soit très marquée d'un côté ou de l'autre. Donc, ça veut dire que ces systèmes-là nous montrent, nous disent... Quoi que vous fassiez quelque part... Alors, je ne veux pas être pessimiste. Mais quoi que vous fassiez, on vous montre que ça a déjà eu lieu. Et qu'on en a un peu rien à foutre, parce qu'on garde quand même les résultats. Et ça, c'est inquiétant. Ça, ce côté-là, moi, j'avoue, c'est quelque chose, Jean-Luc, qui me stresse beaucoup, parce qu'on a encore eu des élections en France, on va en revoir encore bientôt, parce qu'on sent que ça va partir en couille. On voit bien que mondialement, il y a des instabilités, et on voit bien qu'il y a des enjeux de manipulation de ces opinions. La dernière fois, on vous avait fait deux sessions sur l'IA générative, on a parlé de deepfake. On voit bien que le deepfake est une façon aussi de manipuler l'information en manipulant des images qui se font passer pour réel, et donc là, ça va encore plus loin, parce que ça veut dire que ce que l'humain a vu de ses yeux, il est persuadé que c'est vrai. Alors que ça fait déjà des années qu'on peut faire des fausses images avec des CGI très bien faites, mais là, on peut le faire à un rythme hallucinant, et d'ici une dizaine d'années, je vous le parie, ce sera à la portée de tous et de toutes de faire un deepfake de ce que vous voulez. Donc on a aujourd'hui cette problématique.
Au moment où on enregistre, ça c'est très intéressant. Il y a deux nouvelles qui ont fait, qui ont passé justement là. Une compagnie en cybersécurité, c'est NoBeFore aux États-Unis, qui a embauché quelqu'un qui s'est avéré être un Nord-Coréen sans s'en rendre compte sur la base d'interviews par visio. Et le deepfake a simulé la face, la personne et tout était fait de façon à ce que même des gens en cyber n'ont rien réussi à intercepter et à comprendre. Ils s'en sont rendus compte qu'à posteriori, une fois que le laptop a été envoyé à la dite personne, les antivirus sont levés parce que la personne avait essayé justement de mettre des virus sur la dite machine. Donc, on est dans un contexte où là, c'est quand même un acteur étatique qui est quand même avec des moyens assez substantiels pour le faire, qu'une visio, un zoom soit capable de faire accroire à des intervieweurs que la personne qui est là est la personne qui est inexistante, mais qui est réelle. Ça, c'est un cas, puis c'est déjà très apparent, mais ça, on parle encore de moyens. Il y a un cas qui ne demande pas de moyens de toute apparence, c'est à Montréal. Des parents se sont fait appeler par ce qui était semblé la voix de leur fille, qu'elle s'était fait enlever dans un endroit et tout. Fait que les parents ont parti en panique. Et selon eux, parce que là, on est vraiment dans l'émotion, les intonations de voix de leur fille étaient exactes, sa façon de parler, tout leur laissait vraiment présager que c'était vraiment leur fille qui était là et qu'ils voulaient solliciter l'émotion et l'énervement. La nouvelle ne dit pas pourquoi, les motivations qui étaient en arrière, parce que c'est pas un cas de rançon, mais d'habitude, on cherche des rançons. Dans ce cas-ci, on a un cas vide qui est probablement un prank, une mauvaise farce qui a été faite probablement par des gens qui connaissent leur fille pour avoir la voix. Donc, on est rendu à ce niveau d'accessibilité de cette technologie-là, que même des jeunes vont faire des mauvaises blagues de ce type-là. Donc, on est vraiment dans un univers où le fake news ou la réalité alternative et tous ces éléments-là ont une capacité réelle de s'intégrer dans nos vies et qu'il va falloir qu'on développe des moyens autres pour se prémunir contre ça. Là, j'ai de la misère à penser que mes parents ou même les personnes de cette génération-là soient capables même de pouvoir réussir à faire quoi? C'est terrible.
Et ce qui est inquiétant, c'est que les gouvernements qu'on a dans nos pays aujourd'hui, qui sont des ultra-libéraux, sont pour le progrès, ce qui veut tout dire et rien dire. La techno, on est sur des gouvernements technophiles, et pourtant je bosse dans la technologie, hein, j'ai rien contre, mais toute technologie n'est pas forcément toujours bonne, et c'est pas la solution à tout. Et donc aujourd'hui, on est sur des gouvernements qui ont un manque de courage ou de conscience qu'il est urgent de cadrer ces usages-là. Moi, j'attends une loi qui impose, après tout, on l'a fait sur la manipulation du clonage, on a dit mondialement, embargo, aucun clonage humain, c'est tout, illégal partout, on valide rien. On peut très bien dire, tout ce qui est IA doit être tagué numériquement avec l'usage d'IA officiellement, interdire de sortir le moindre produit. Si vous sortez un produit sans cet tag-là, c'est un délit, vous êtes condamné, on fait des amendes directement, on condamne les gens, on bloque les sujets. Le souci, c'est ça, c'est qu'on regarde ça comme des jouets sympathiques, accessibles. On en a parlé avec l'IA générative, hein, c'est un côté très ludique, très plaisant, ça peut être très pratique, ça s'utilise pour rien, c'est accessible à tous et à toutes. Le problème, c'est qu'on alimente ensuite les canaux de communication qu'on utilise pour avoir de l'information, auxquels on a été sensibilisés, comme on disait au début de cette session, et on les alimente de choses fausses, avec des images fausses, dont on s'habitue au côté faux. Je regarde beaucoup de sujets sur ce sujet-là, et je regardais un sujet avec un psychiatre qui fait un travail avec des deepfakes volontaires sur des patients. Je vous explique le concept, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Il prend quelqu'un qui a, par exemple, c'était là une journaliste qui avait une phobie de l'eau, qui avait peur de se noyer. Et donc, ils font un scan complet de son visage. Ils prennent une actrice qui va en combinaison dans l'eau et ils lui font voir sur un grand écran les images avec son visage en train de prendre du plaisir à aller se baigner. Et il dit, le cerveau n'a pas besoin de vivre un événement pour que le souvenir de cet événement soit ancré comme une expérience réelle. J'en veux la preuve qu'on a tous et toutes fait des rêves quand on était enfant qui nous hantent 30, 40, 50 ans après. Où on est persuadé d'avoir vécu quelque chose. Petite anecdote personnelle, petite dédicace à ma belle-fille, qui a 6 ans, rêve que je lui fais du mal et qu'il m'en veut pendant 2 semaines. Que j'ai été méchant avec elle, et pendant 2 semaines, elle m'en veut alors qu'elle a rêvé. Ça n'est jamais arrivé, elle était juste, elle m'a fait la gueule, elle a mis plusieurs jours à le dire à sa mère à l'époque, je lui ai dit, c'est un rêve ma poulette, j'ai rien fait. Oui, mais pendant 2 semaines, ça a été dur, parce qu'en fait, l'émotion était telle. Et donc, si on est capable de tromper le cerveau avec des deepfakes de nous-mêmes en train de vivre une expérience, vous imaginez, dans un flot d'informations, on accueille aujourd'hui. La plupart d'entre vous ne dites pas le contraire, et on est tous sensibles à ça, même si nous, on a cette sensibilité en plus. La plupart d'entre nous, le premier réflexe, c'est d'apporter du crédit à l'image. Alors, nous, on a des têtes de parano actuellement, et on se pose des questions, donc souvent maintenant, on va mettre en doute systématiquement. Et je m'aperçois que depuis quelques mois, j'ai ce doute beaucoup plus fort qu'avant. Dès que je lis un titre de presse d'un sujet qui me semble intéressant, par exemple, je l'ai eu il y a quelques jours avec l'annonce que Biden se désiste, et ben, il a fallu que j'aille rechercher l'information à plusieurs endroits pour être sûr que ce soit vrai. Et tout de suite, ça m'a mis le doute. Alors, vous voyez, il faut avoir ce réflexe du doute. Et je sais que c'est pas forcément très agréable, mais je préfère ça plutôt que d'avoir apporté du crédit à quelque chose de faux et de devoir vivre avec cette émotion après, parce qu'on risque justement de garder cette idée que ça a quand même été vrai. Méfiez-vous, des fois, notre cerveau, il aime bien vivre avec ce qu'il pense avoir vécu plutôt qu'avec la réalité. Donc, on a cette problématique aussi.
Ouais, c'est compliqué. Puis c'est des volets très intéressants de la psychologie qui sont malheureusement peu connus dans l'espace public. Le cas de Biden aussi, quand on me l'a dit, j'ai dû revérifier à deux à trois sources parce que là, c'est un peu hors norme. C'est une nouvelle qui crée de la surprise.
Oui.
Va nécessairement déstabiliser ma perception d'une nouvelle.
Et on avait eu, en plus, juste avant, les canaux officiels qui répétaient en boucle que non, il confirmait, il allait rester, sa famille disait surtout pas, l'idée est là, mais ça n'aura pas lieu. Donc, effectivement, ouais. En plus, c'est ça. C'est qu'en plus, on a une communication qui va dans un sens qui n'est pas mauvaise ici, hein, mal intentionnée. Elle dit juste l'État pour, participer à une élection, il valait mieux dire qu'il allait continuer. Et puis, effectivement, le fait que ça tombe d'un coup comme ça, et on finit par mettre en doute. Donc, dès que vous avez comme ça une image, mais même peut-être des choses à moindre échelle, hein, on s'aperçoit aujourd'hui que les manipulations d'informations, elles sont faites aussi à des échelles plus petites. Ça peut être des attaques locales dans un village, un vol, une agression qui est remis en avant. En France, on a eu des ingérences russes avéré hein, pendant depuis le 7 octobre avec la problématique qui tourne autour de la Palestine et d'Israël pour essayer de créer de la déstabilisation. N'oubliez pas qu'une petite mauvaise information peut créer suffisamment de déstabilisation pour foutre la merde dans le pays. Et c'est plus facile à mettre en œuvre et ça coûte moins cher de déstabiliser un pays par des mauvaises informations que d'envoyer un missile nucléaire. Donc pensez à ça aussi. Nous, je pense qu'on reviendra sur le sujet avec les entreprises. La prochaine fois, justement, on viendra voir comment une entreprise peut gérer ça, parce que c'est pas évident. Une entreprise peut donner à voir des informations, peut avoir des informations très critiques, peut aussi s'abreuver elle-même d'informations. Et les employés, on parlera un bon sujet là-dessus, peuvent aussi avoir des difficultés à saisir l'importance des informations qu'ils possèdent ou ils et elles incarnent ou qu'ils peuvent laisser libres derrière. On aura un beau sujet de sécurité de l'information à faire.
Tout à fait, puis c'est intéressant, puis je vais boucler, puis on va conclure là-dessus. Quand tu parlais justement, les psychologues utilisaient pour justement désensibiliser la personne face à la peur de l'eau, il y a eu des études pendant des années qui ont été faites sur les personnes qui sont amputées, mais qui continuent à avoir une douleur du membre amputé, puis ça c'est un des problèmes, puis ils utilisent un miroir avec la main existante, puis le cerveau, puis là on le sait, la personne le sait, elle voit le miroir, elle voit tout, mais le cerveau, il se fait complètement avoir et fait disparaître la douleur qui était permanente chez ces gens-là, qui leur diminuait énormément leur qualité de vie, a disparu que par le fait de voir sa projection dans un miroir du membre non amputé, puis ça devient défaire l'image du cerveau. Il faut se rendre compte à quel point notre cerveau est facilement manipulable. Tu parlais des rêves aussi, j'en ai certains des rêves d'enfant, c'est l'émotion qui est associée, qui va avec ce genre de choses-là. Puis même comme adulte, des fois, il m'arrive d'avoir des rêves très intenses, ou des cauchemars plutôt très intenses. C'est plus sûr qu'on se souvient que des rêves plus paisibles. Et ces cauchemars-là, des fois, j'en ai des choses qui restent pendant des semaines, de l'émotion qui est associée, et elle me demandait si l'événement qui est relatif à ça est existant ou pas, et à quel point c'est facile de réussir à tordre un peu le mécanique que par un rêve dans ce cas-ci. Donc, c'est assez terrible de savoir qu'on est dans cet univers-là, de devoir remettre en doute justement constamment un peu ces différents éléments-là. On a fait un grand tour.
En espérant qu'on va garder qu'on vous ait pas trop fait peur.
Oui, ben c'est d'avoir ramené, c'est l'esprit critique, d'être capable de s'ouvrir et faire attention d'ailleurs à les informations qui nous sont données.
Recouper les sources.
Capacité de se défendre un peu aussi, parce qu'intellectuellement, c'est malheureux, mais on est bombardé, puis c'est pas tout le monde qui veut notre bien, ou ils veulent notre bien, mais pour leur intérêt à eux.
Hein? On dit le chemin d'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc vouloir le bien de quelqu'un, ça veut pas dire qu'on fait les choses bien.
Oui, essentiellement, fait de voir, puis tu mentionnais justement les trois axes qui sont très importants, savoir est-ce que la personne a une motivation particulière à nous communiquer cette information-là. Donc, de toujours se questionner sur l'objectif de la personne qui veut absolument nous pousser.
Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est bienveillant? Et est-ce que c'est vrai? À partir de là, si ça correspond aucun des trois, dis rien à foutre, tu peux continuer à parler, ça ne m'intéresse pas. Et si c'est une personne qui revient souvent dire la même chose, en fait, il faut couper le contact avec cette personne. Il ne faut pas hésiter. Et sur les réseaux sociaux, je vous invite à bannir plein de comptes comme ça. Dès que vous avez du pourrissement, n'allez pas échanger, discuter, sachant que la personne peut être là exprès pour ça. Coupez court, on dit hop, au revoir. Là, on est 8 milliards sur Terre. La Terre est très grande. Et d'ici qu'on finisse cette vidéo, il y a d'autres gens qui seront nés, d'autres qui seront morts. Ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion de voir des humains, de discuter avec eux. On n'est pas obligé de s'entendre tout.
Oui, puis si on rencontre quelqu'un qui veut trop avoir raison, c'est déjà un signe important qu'on a une situation problématique devant nous. Parce que normalement, il y a personne qui insiste pour avoir absolument raison et de vouloir vaincre avec son argumentaire quelque chose. C'est quelque chose qui est un peu, à mon sens, absurde. Donc, bref, on va conclure ça. On espère que vous n'êtes pas trop déprimé, comme tu dis, qu'on vous a donné aussi des éléments, des outils pour vous aider un peu à vous manœuvrer là-dedans. Parce que c'est dans le monde dans lequel on est maintenant, dans le cas, les informations sont le centre de ce qu'on vit et on est baigné de plus en plus. Comme je disais en introduction, bien, la piscine d'information est en train de se visser, est en train de se polluer de différentes choses, d'être capable de faire partie des gens qui vont enlever un peu de pollution tranquillement et ramener une situation un peu plus agréable.
On l'espère.